Cantique 183. Source de grâce intarissable, Jésus fidèle et bon berger, ton amour est inépuisable.
J'aurais à cœur que nous lisions ensemble ce soir le chapitre 15 du livre des Actes, au moins en partie. Et quelques versets au chapitre 16. Actes chapitre 15. Quelques-uns étant descendus de Judée enseignaient les frères, disant : Si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Une contestation s'étant donc élevée et une grande dispute entre Paul et Barnabas et eux, ils résolurent que Paul et Barnabas et quelques autres frères d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Eux donc, ayant été accompagnés par l'assemblée, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée et les apôtres et les anciens. Ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux. Et quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent, disant « Il faut les circoncire et leur enjoindre de garder la loi de Moïse. » Et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et une grande discussion ayant eu lieu, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez vous-même que dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous, afin que par ma bouche les nations entendent la parole de l'Évangile et qu'elles croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit Saint comme à nous-mêmes. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux aussi. Et toute la multitude se tut. Ils écoutaient Barnabas et Paul qui racontaient quels miracles et quels prodiges Dieu avait fait par leurs moyens parmi les nations. Et après qu'ils se soient tus, Jacques répondit disant, « Homme frère, écoutez-moi. » Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé, et je réédifierai ses ruines et je le relèverai, en sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait ces choses, connu de tout temps. C'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures, des idoles et de la fornication, et ce qui est étouffé du sang. Car Moïse, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lu dans les synagogues chaque sabbat. Il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de choisir parmi eux des hommes et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, savoir Judas, appelé Barsabbas, et Silas, homme d'entre ceux qui tenaient la première place parmi les frères. Ils écrivirent par leurs mains en ces termes, « Les apôtres et les anciens et les frères aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche et en Syrie et en Cilicie, salut. Comme nous avons entendu dire que quelques-uns qui sont sortis d'entre vous vous ont troublés par des discours bouleversant vos âmes, disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, auquel nous n'avons donné aucun ordre, il nous a semblé bon, étant tous d'accord, de choisir parmi nous des hommes et de les envoyer vers vous avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires, qu'on s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Portez-vous bien. » Et donc, ayant été congédiés, vinrent à Antioche, et ayant assemblé la multitude, ils remirent la lettre. Et l'ayant lu, ils se réjouirent de la consolation. Et Judas et Silas, qui eux aussi étaient prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. Et après avoir séjourné là quelque temps, ils furent renvoyés en paix par les frères avec ceux qui les avaient envoyés. Et Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres aussi la parole du Seigneur. Et puis au chapitre 16, nous lisons au verset 4. Et comme Paul, Silas et Timothée passaient par les villes, ils leur remirent pour les garder les ordonnances établies par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Les assemblées donc étaient affermies dans la foi et croissaient en nombre chaque jour. Nous avons plusieurs côtés dans ce chapitre qui peut nous interpeller. Il y a d'abord ce côté de l'attitude, de la position des croyants de l'époque de la grâce dans laquelle nous sommes vis-à-vis des ordonnances de la loi, les 10 commandements, mais non seulement les 10 commandements, mais aussi toutes les ordonnances que Moïse avait données au peuple pour que les relations entre le peuple et Dieu soient maintenues. Nous avons un autre côté, c'est comment Dieu se sert de ces difficultés qui étaient montées à Antioche pour conduire les saints à agir de sa part d'une manière qui, comme nous l'avons lu dans la fin de nos lectures, que la paix soit goûtée dans les assemblées, qu'il y ait de l'édification et de l'affermissement dans la foi. Deux côtés que nous désirons, sur lesquels nous désirons nous arrêter. C'était le début du christianisme. Dans les chapitres précédents, nous voyons le début de l'histoire de l'Église, d'abord à Jérusalem, par les prédications des apôtres et en particulier de Pierre, puis l'introduction dans l'Assemblée des Samaritains, au chapitre 8, après le martyre d'Étienne, comment Dieu ouvre la porte de la grâce à ces Samaritains qui étaient méprisés des Juifs. En chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, quand le Seigneur rencontre la Samaritaine, il est dit que les Samaritains, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Et voilà que l'intervention de la grâce de Dieu qui amène l'Évangile dans ces contrées de la Samarie conduit à ce que ce clivage entre les Samaritains et les Juifs disparaisse lorsque l'Évangile est reçu. C'est aussi une leçon que nous aimons retenir pour nous-mêmes. Quand l'Évangile est reçu, les différences qu'il peut y avoir, différences sociales, différences de nationalité, différences de race, tombent automatiquement. Et les liens que nous avons en Christ sont goûtés en dehors de toutes ces différences qui peuvent exister au milieu des hommes. Et puis, le chapitre 9 de ce livre des Actes présente la conversion de Paul. Et le Seigneur pouvait dire à son sujet, « Cet homme est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. » Dieu a mis cet homme, Paul, à part pour que l'Évangile soit porté vers les nations, vers les rois et les fils d'Israël, de telle sorte que l'étendue du ministère de Paul est extrêmement large. Les nations d'un côté, les fils d'Israël, et puis les rois, ce qui montre bien que son ministère ne se limitait pas aux classes, moyennes ou basses de la société, mais s'étendait à tous les hommes. Et nous nous souvenons, quand nous prêchons l'Évangile, de cela, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce que le Seigneur avait dit en son temps, il n'était pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Et nous ne sommes pas surpris quand nous apprenons par l'un ou l'autre de nos frères qui peut visiter les prisons, que des prisonniers tournent vers le Seigneur. Pourquoi ? Eh bien, ce sont des pécheurs et le Seigneur appelle de tels à la repentance. Et en général, ceux qui sont dans les prisons, pour beaucoup, savent pourquoi ils y sont et connaissent leur responsabilité devant les hommes, mais encore plus devant Dieu. Mais il faut aller au chapitre 10 pour voir le premier homme d'entre les nations introduit dans l'Assemblée. Et cela a été la responsabilité de l'apôtre Pierre. On se souvient que dans Matthieu 16, quand après que Pierre ait fait cette belle confession au Seigneur, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur a dit à Pierre, « Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et cette révélation que Pierre a eue, c'est cette révélation sur laquelle le Seigneur bâtit son assemblée. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Sur ce roc, nous comprenons bien qu'il est question de la personne du Seigneur, mais aussi la confession de cette personne comme le Fils de Dieu pour être ajouté à l'assemblée. Et alors, Pierre a reçu un ministère particulier. Il lui avait dit, « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et il convenait, et Dieu avait choisi l'apôtre Pierre pour ouvrir la porte de la grâce et l'introduction dans l'assemblée des gentils. D'ailleurs, c'est une chose très remarquable. Cet apôtre Pierre était donc un juif. On voit par une anecdote qui est citée en Galates 2 qu'il était très attaché aux coutumes juives. Et Dieu se sert donc d'un homme, d'un de ses apôtres, qui avait un certain attachement, bien qu'il soit un homme simple et du commun, un de ses apôtres pour introduire, pour être l'instrument qui amène à la connaissance de Jésus, le Fils de Dieu, un homme des nations qui craignait Dieu et qui par là même est introduit dans l'assemblée, ayant reçu le Saint-Esprit ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Et c'est après cela que nous voyons Paul commencer ses voyages missionnaires parmi les nations, comme nous le trouvons dans les chapitres précédents, le chapitre que nous avons lu. Il y avait donc ces deux catégories de personnes, si j'ose dire, qui se trouvaient au bénéfice de la grâce de Dieu. Ces Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus et qui restaient encore attachés aux ordonnances de la loi, comme nous les voyons souvent monter au temple pour prier. Et puis ceux des nations qui sortaient de l'idolâtrie et qui n'avaient aucune relation, aucun lien avec les ordonnances juives. Et Antioche était une des premières assemblées des nations. Il est parlé de cette assemblée dans le chapitre 11, comme nous le voyons à partir du verset 19, d'une manière particulière, que certains, après le martyr d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, annonçant la parole du Seigneur, tout d'abord aux Juifs seulement, et puis il y en a qui se tournent vers le Seigneur Jésus. On voit au verset 20 des Cypriotes, des Cyrénéens, des Grecs, et qui annonçaient, des Cypriotes, des Cyrénéens, venus à Antioche annoncer la parole du Seigneur aux Grecs, c'est-à-dire à ceux des nations. Et c'est là que un grand nombre crut, se tourne vers le Seigneur. Le bruit en vient aux oreilles de l'assemblée à Jérusalem. Ils envoient Barnabas pour passer à Antioche pour être un instrument pour l'édification de l'assemblée. Et puis Barnabas va chercher Saul pour apporter sa contribution dans l'édification de cette assemblée. Une remarque en passant, si Barnabas va chercher Saul, il ne considère pas comme cette assemblée où il se trouvait comme étant le domaine particulier de son service. Il est prêt à ce que d'autres viennent servir pour le bien de ses saints. Et c'est sentiment, un sentiment qu'il est heureux que nous puissions avoir les uns et les autres, désirant l'édification des saints, être prêts à faire intervenir un frère ou un autre que l'on connaît, capable d'apporter de l'édification. Et dans le début de notre chapitre, il y en a quelques-uns qui viennent de Judée et qui enseignaient les frères en disant si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. L'Épître aux Galates nous enseigne de façon beaucoup plus complète que ces quelques versets que nous avons là sur la gravité d'un tel enseignement. Et l'apôtre Paul aux Galates peut dire « Vous êtes déchus de la grâce ». Si vous... Il faudrait que je retrouve le verset. Il dit au début de l'Épître que les saints qui se laissaient entraîner par cet enseignement étaient conduits à un évangile différent qui n'en est pas un autre, et que les gens qui les enseignaient les troublaient. Et d'ailleurs, on a retrouvé ce mot « troublé » dans notre lecture quand il est dit au verset 24 « Quelques-uns qui sont sortis d'entre nous vous ont troublés par des discours bouleversant vos âmes. » Si nous ajoutons quelque chose à l'évangile qui est l'évangile de la grâce de Dieu, nous en perdons la valeur. C'est un évangile différent, dit l'apôtre aux Galates. Pourquoi? Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Nous savons que le mot évangile signifie bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui nous amène la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on place les croyants sous la circoncision et sous l'obligation d'accomplir la loi, on ajoute à la grâce des obligations que l'homme, on verra par la suite dans le chapitre, que l'homme ne peut pas accomplir et qui lui fait perdre au moins la jouissance de son salut. On comprend qu'il y a une grande contestation entre Paul et Barnabas et ceux qui étaient venus enseignant ainsi. Ce sur quoi nous désirons aussi nous arrêter, c'est sur la façon dont cette question a été réglée. Parce que cette façon dont la question a été réglée est pleine d'enseignements pour nous et nous montre avec quel soin et quelle délicatesse nous devons agir quand des questions difficiles peuvent se soulever parmi nous. Il y avait là l'apôtre Paul, c'était un apôtre, il avait une autorité apostolique. Mais il n'était pas celui qui avait été appelé, comme Pierre, à lier ou délier. Nous n'avons pas souligné en quoi Pierre avait pu délier dans le début des livres des Actes, mais Paul n'avait pas reçu le même service. Il maintient la vérité, mais il n'use pas de son autorité apostolique pour réfuter cet enseignement. Et puis il nous est dit que ils résolurent, et ce « il » nous fait penser à ceux d'Antioche, que Paul et Barnabas, avec quelques autres d'entre eux, iraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Ceux qui annonçaient cette doctrine venaient de Jérusalem, venaient de la Judée. Et il était normal que ce soit ceux de la Judée qui répondent quant à l'enseignement qui était apporté et qui troublait les assemblées d'Antioche. On peut remarquer que Paul, il nous est dit que, au verset 3, que étant accompagnés par l'assemblée, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des nations. L'Épître aux Galates nous présente la question de façon un peu différente. Le voyage de Paul vers Jérusalem de façon un peu différente. Quand nous lisons au chapitre 2 et au verset 2 de l'Épître aux Galates, « Ensuite, au bout de 14 ans, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, prenant aussi Tite avec moi. J'y montai selon une révélation et je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les nations, mais dans le particulier à ceux qui étaient considérés, de peur qu'en quelque manière je ne cours et n'ai couru en vain. » Dans notre chapitre, il semble que ce soit l'Assemblée qui ait envoyé Paul et Barnabas. Dans l'Épître aux Galates, nous voyons que Paul y est monté selon une révélation qu'il avait eue du Seigneur. Est-ce que les deux choses sont contradictoires? C'est une question que l'on peut se poser. Et nous savons bien qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole. Et nous ne voyons nulle part que la parole trouve à redire soit dans l'action de ceux d'Antioche, ni dans ce qu'a fait Paul. Mais alors, qu'est-ce que cela souligne pour nous? Si un serviteur est amené à exercer un service particulier, il a son propre exercice devant le Seigneur. Et il faut qu'il soit convaincu devant le Seigneur qu'il a ce service à accomplir. Mais d'un autre côté, il est bon et il convient que l'Assemblée puisse exprimer la communion avec dans le service que accomplit celui qui s'engage. Et c'est ce que nous voyons dans le fait qu'ils ont été accompagnés par l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée à laquelle je suis rattaché peut m'accompagner dans le service que j'exerce? C'est ce qu'on appelle aussi la main d'association. Mais bien que ce soit peut-être un peu différent, on trouve la main d'association au chapitre 13 de ce livre à l'égard de Paul et de Barnabas. Mais l'Assemblée accompagne. Elle a la conviction que ceux qui vont, elle les envoie d'ailleurs, la conviction qu'ils y vont pour accomplir un service que le Seigneur leur a confié. Et d'un autre côté, ceux qui accomplissent un service ont cet exercice devant le Seigneur pour être persuadés que c'est le Seigneur qui les amène à accomplir ce service. Et c'est un point que nous aimons souligner, non pas pour sans autre pensée que de nous appliquer quand nous engageons dans quelque exercice, dans quelque service pour lequel nous sommes exercés. Il y a bien sûr des services secrets. Des services secrets, par exemple, des services de visite ou d'autres services, même distribuer quelques calendriers ou quelques évangiles dans les maisons, ce sont des services secrets qu'il est bon souvent de faire dans le secret, parce que ce sont ces services qui forment l'âme, qui forment le serviteur pour être, si le Seigneur l'appelle, apte à accomplir des services de plus grande envergure. Pourquoi c'était important qu'il y ait cette communion entre Paul et l'Assemblée d'Antioche et qu'il y ait cet exercice des deux côtés? Parce qu'en fait, ce service qu'ils allaient accomplir a une portée publique. Et quand un service a une portée publique, il faut qu'il soit pour l'édification, il faut qu'il soit pour la paix, il faut qu'il soit pour le bien de l'Assemblée. Bien sûr, peut-être dirait, il faudrait d'abord dire qu'il faut qu'il soit pour la gloire du Seigneur. Mais tous les services doivent être faits pour la gloire du Seigneur. Mais lorsqu'il y a un service qui est accompli et qui a une portée publique, il faut être très soigneux dans la façon dont nous le faisons pour ne pas laisser l'occasion à l'ennemi d'amener du trouble dans l'accomplissement de ce service. On peut remarquer aussi que Paul et Barnabas et ceux qui les accompagnaient passent dans les assemblées alors qu'ils sont en route pour Jérusalem. Mais il ne nous est nulle part dit qu'ils ont raconté pourquoi ils allaient à Jérusalem. Non, ils ont dit qu'ils ont parlé, ils ont raconté la conversion des nations, verset 3 toujours, racontant la conversion des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Les assemblées au milieu desquelles ils passaient n'étaient pas directement concernées par cette question qui devait être réglée à Jérusalem. Mais elles avaient besoin d'édification, d'encouragement, de joie. Et c'est ce que les apôtres se sont appliqués à faire. Nous appliquons, et que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours le faire, être des instruments qui apportent l'édification et la joie au milieu des saints. Et c'est toujours en tremblant que l'on ouvre la parole, que ce soit dans les maisons ou que ce soit publiquement, avec le désir qu'il y ait véritablement de l'édification et du bien au milieu des saints. C'est ce qu'ont fait Paul et Barnabas et ceux qui les accompagnaient. Et puis ils arrivent à Jérusalem et ils racontent aussi toutes les choses que Dieu avait faites avec eux. Le premier sujet de leur conversation à Jérusalem, ça a été de parler de ce que le Seigneur avait fait par leurs moyens. D'ailleurs, ils disent bien les choses que Dieu avait faites avec eux. C'est Dieu qui avait opéré. Et quand un service est accompli et opère en bénédiction, c'est Dieu qui agit, quel que soit l'instrument qu'il emploie, mais il agit avec eux. Dans, je ne sais plus si c'est la première épître de Pierre, aux Corinthiens, je crois, l'apôtre dit « Nous sommes collaborateurs de Dieu. Travaillons à la même œuvre que Dieu et nous sommes comme des instruments que Dieu emploie pour son service. » Et alors, la question se soulève. Il y avait parmi les saints à Jérusalem des croyants qui avaient été autrefois pharisiens, qui avaient cru. Dans les assemblées, il y a des croyants issus de toutes sortes de milieux. Et peut-être que, à cause des milieux d'où l'on sort, nous avons certaines tendances, c'est possible. Et ces pharisiens, ils s'élèvent en disant « il faut les circoncire et leur enjoindre à garder la loi de Moïse ». Voilà donc de nouveau la question mise en avant. Il n'est pas dit qu'on les a repris vertement. Mais le paragraphe suivant nous montre que les apôtres et les anciens s'assemblent pour examiner cette affaire. Et à cette occasion, il y a une grande discussion au milieu d'eux. Personne ne s'est levé pour dire « il faut faire silence ». On a laissé, j'allais dire, les gens s'exprimer, ou les frères s'exprimer. Il y a un temps où peut-être il faut laisser les uns et les autres s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ce qui est dit. Mais il faut, le Seigneur trouve bon des fois, pour que toute contestation soit arrêtée, que les choses soient exprimées. Et c'est une grâce si le Seigneur nous accorde d'écouter avec patience, en comptant sur lui pour l'issue de ces discussions. Et puis, quand cette discussion est terminée, eh bien, Pierre se lève. Et Pierre était bien placé pour se lever, parce que Dieu l'avait choisi pour ouvrir la porte pour que comme il dit, Dieu m'a choisi entre vous afin que par ma bouche, les nations entendent la parole de l'Évangile et qu'elles croient. Et Pierre fait référence à ce qui s'était passé dans la maison de Corneille. Il est remarquable de voir que, je crois que c'est par trois fois que le témoignage est donné de comment Pierre a été amené à parler à Corneille et comment il a compris que Dieu ne tient, comme il le dit au chapitre 10 de ce livre, Dieu m'a montré verset 28, quand il dit « Vous savez que c'est une chose illicite pour un juif de se lier avec un étranger ou d'aller à lui. Et Dieu m'a montré à moi de n'appeler aucun homme impur ou immonde. » Pierre avait cette réticence d'aller vers un homme des nations, lui un juif, pour présenter l'Évangile. Mais Dieu lui a montré qu'il ne fallait tenir personne comme impur ou immonde. Par nature, je pense que nous sommes tous comme ça, nous avons peut-être une certaine réticence d'aller vers les uns ou les autres. Et Dieu nous dit, attention, pour moi ne tient personne impur ou immonde. Nous allons voir que ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais que ça montre que l'Évangile s'adresse à tous. Alors, Pierre avait été choisi pour cela. Et c'est Dieu qui avait agi. Et nous savons comment Dieu avait agi. Il est dit au verset 8, « Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit Saint comme à nous-mêmes. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Il établit donc qu'il n'y avait eu, Dieu n'avait fait aucune différence pour purifier les cœurs par la foi des hommes des nations comme de ceux d'entre les Juifs. Ce qui nous savons ou nous pourrons le relire dans le chapitre 10 de ce livre des Actes, comment l'Esprit Saint est tombé sur Corneille et ceux qui étaient assis dans sa maison, quand après avoir parlé du Seigneur Jésus et que l'apôtre ait dit « Tous les prophètes rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit les péchés », aussitôt le Saint-Esprit tombe sur ces hommes. Il n'avait fait aucune différence. Les apôtres et les croyants du chapitre 2 du livre des Actes avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils faisaient partie du peuple juif. Et là, de la même manière, ces croyants d'entre les nations ont reçu le Saint-Esprit alors qu'ils n'avaient aucun lien avec le peuple juif. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Donc ce qui purifie le cœur, c'est la foi. La foi en l'œuvre de la croix, la foi en la valeur du sang de Jésus. Puis nous continuons et nous lisons « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Vouloir ajouter à la foi l'observance des ordonnances de la loi, c'était tenter Dieu. C'était comme pour dire que la grâce de Dieu n'est pas suffisante pour le salut de l'âme. Et c'était rabaisser la valeur de l'œuvre de la croix. Et c'est pour cela que vouloir ajouter à la grâce la loi ou la circoncision ou quelques principes légaux, comme ça peut se trouver aussi dans la chrétienté maintenant, c'est rabaisser la valeur de l'œuvre de la croix, et ainsi c'est dénaturer l'Évangile. Voilà le côté de Dieu, vous tentez Dieu. Et puis du côté des hommes, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Il y a le côté de Dieu, c'est-à-dire en voulant ramener les croyants à la loi, c'est dire, nous le répétons, que l'œuvre de la croix n'est pas suffisante pour Dieu, qu'il faut quelque chose de la part de l'homme. Et puis, du côté de l'homme, c'est lui placer un joug qu'il n'est pas capable de porter. Il y a ces deux côtés dans ce verset. Il y a le tort qui est fait aux hommes, à Dieu, pardon, puis le tort qui est fait aux hommes, vouloir mettre un joug que nous n'avons pas pu porter. Alors attention, quand nous disons cela, ça ne veut pas dire que le croyant est libre de faire ce qu'il veut. La loi de la liberté dont il est parlé dans l'épître de Jacques est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant, chapitre 5, verset 1, tenez donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Ça ne signifie pas que le croyant est libre de faire ce qu'il veut. Il ne va pas retourner au mal qu'il pouvait, aux méchantes choses qu'il pouvait faire avant. Mais il n'est pas sous la contrainte d'une obligation nécessaire pour son salut. Retenons ce que dit l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée au chapitre 1, « La loi est pour les incrédules ». Il dit cela, « La loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques, les insubordonnés, les impies, les pécheurs, etc. » La loi, en fait, elle manifeste que l'homme est dans le péché et elle montre la gravité du péché devant Dieu. C'est pour ça qu'elle est pour les iniques, pour les injustes, c'est-à-dire ceux qui marchent dans un chemin de désobéissance à la parole de Dieu. Et la loi ne peut que convaincre de péché. Mais la loi n'est pas donnée pour que nous l'observions pour être trouvé agréable à Dieu. La seule chose, le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, c'est par l'œuvre de la croix et le sang versé à la croix. Et l'apôtre Pierre termine, « Nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux aussi. » Il reconnaît que eux-mêmes, les Juifs, qui pourtant avaient certainement, et en particulier ces pharisiens qui au verset 5, voulaient enjoindre ceux des Nancy des nations de garder la loi, que eux-mêmes, les Juifs, avaient été sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, uniquement par la grâce du Seigneur Jésus. C'est une chose que nous avons besoin de nous rappeler bien souvent. Nous ne sommes sauvés que par la grâce du Seigneur Jésus. Je n'ai aucun mérite. Peut-être que parmi nous, il y en a qui ont eu une vie, j'allais dire, plus rangée que d'autres. Et je ne le contesterai pas, personne ne le contestera. Mais ce n'est pas ça qui va nous être bénéfique, c'est la grâce du Seigneur Jésus. Nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, comme eux aussi. Et je peux dire, je crois être sauvé par la grâce du Seigneur Jésus de la même façon que le brillant à qui le Seigneur a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était là parce qu'il avait commis un meurtre. Moi, par la grâce de Dieu, je n'ai pas commis un meurtre, mais je suis sauvé par la même grâce. C'est aussi une chose dont nous pouvons nous rappeler, et peut-être certains d'entre nous ont eu l'occasion de voir des croyants s'approcher et qui avaient été des hommes de très mauvaise vie. Ils sont sauvés, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu de la même manière qu'eux aussi. Après que Pierre ait présenté donc ce que le Seigneur lui avait appris et comment Dieu avait opéré dans cette maison de Corneille, Paul et Barnabas racontent ce que Dieu avait fait par leurs moyens parmi les nations. Et tout le monde se tait. Et puis, le Seigneur a employé un troisième frère, Jacques, qui donne, comme pour dire, la conclusion de ces échanges. Et il dit, Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Remarquez la façon dont il le dit. Siméon a raconté comment Dieu a visité la nation pour en tirer un peuple pour son nom. Il reconnaît que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a visité les nations. Et il reconnaît que d'entre les nations, Dieu tire un peuple pour son nom. Le peuple d'Israël avait, Abraham avait été appelé et le peuple d'Israël avait été mis à part pour Dieu. Mais cet homme, Jacques, qui était une colonne parmi les Juifs, reconnaît que Dieu tire un peuple pour son nom d'entre ces hommes des nations. Puis il ajoute, à cela s'accordent les paroles des prophètes. Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé, et je réédifierai ses ruines, et je le relèverai de sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de tout temps. Il dit que à cela s'accordent les paroles des prophètes. Et la citation que nous avons est une citation du prophète Amos. Nous avons la référence au bas de, en note dans nos Bibles. Mais il lit des prophètes. Parce que si le texte, si les versets qui sont cités sont ceux du prophète Amos, c'est la pensée générale que l'on trouve dans les prophètes. On trouve cette expression dans le prophète Ésaïe, une lumière pour les nations. Ce sera une lumière pour les nations. Et voyons donc que la pensée de Dieu était déjà connue dans l'Ancien Testament pour montrer que la grâce de Dieu allait dépasser les bornes, les limites du peuple d'Israël. Joseph est une branche qui porte du fruit par-dessus la muraille, comme nous lisons dans Genèse 49, je crois. Il est parlé du tabernacle de David. Il n'est pas parlé du tabernacle qui a été construit dans le désert, du tabernacle de David. David était un roi, il ne faisait pas partie de la tribu de Lévi, la tribu parmi laquelle se trouvaient les sacrificateurs. David est aussi le roi qui a été oint après Saül. Saül, c'était un roi mis à l'épreuve et qui a montré que la chair ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Et David, c'est le roi, son nom signifie le bien-aimé, celui qui était selon le cœur de Dieu. Et c'est un type précieux et merveilleux de la personne du Seigneur Jésus. Ainsi, ce que Dieu avait en vue pour la bénédiction des hommes, typifié par ce tabernacle de David, si je comprends bien, eh bien, se réaliser dans l'Évangile, par l'Évangile. Le tabernacle de David qui est tombé, je réédifierai ses ruines, en sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé. L'œuvre de la grâce de Dieu, après la venue du Seigneur et l'accomplissement de son œuvre à la croix, dépassait automatiquement les limites du peuple d'Israël, selon le désir, selon la pensée que Dieu avait exprimée. Et alors Jacques donne la conclusion, si on peut dire, de ces échanges. Je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations, mais de leur demander trois choses, quatre, s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication, de ce qui est étouffé du sang. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. Et il est dit au verset 22, « Alors il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée, de choisir parmi eux des hommes et de les envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, savoir Judas, appelé Barsabas et Silas, hommes d'être ceux qui tenaient la première place parmi les frères, et ils écrivent, n'est-ce pas, les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les nations, salut. Et puis il dit un peu plus loin, il nous a semblé bon, étant tous d'accord, de choisir parmi nous des hommes et de les envoyer vers vous avec nos bien-aimés. Et ce qui est donné, c'est la conclusion qu'a tirée Jacques. Là, on pourrait se poser la question, voilà, Pierre a parlé, Paul et Barnabas ont parlé, Jacques parlait, et puis on dit que les anciens, avec toute l'assemblée, décident de tirer cette conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ces quelques frères ont usé d'une autorité et qu'on doit se soumettre à eux? Non. L'assemblée a compris que ce qui avait été dit par ces apôtres, par les anciens, était la pensée du Seigneur. Et on peut dire que l'assemblée s'identifie avec la conclusion qu'a donnée Jacques à la suite des interventions de Pierre et Paul et Barnabas. Ce qui fait qu'il y a une unité de pensée exprimée dans la réponse qui est donnée aux croyants d'Antioche. Je dis bien, l'assemblée s'est identifiée avec les conclusions données. Et c'est ainsi que les choses doivent se régler dans les assemblées. Le mot régler n'est peut-être pas bon, vous m'excuserez si l'emploi. Mais quand il y a une question, ne serait-ce que lorsqu'on a une demande de la part de l'un ou l'autre, d'un jeune ou moins jeune, pour participer à la table du Seigneur. Il y a toujours quelques frères qui recherchent à avoir un témoignage, un bon témoignage au sujet de celui qui fait la demande. Ils peuvent aussi, suivant le cas, avoir le témoignage de certaines sœurs. Ils transmettent ce témoignage à l'Assemblée et l'Assemblée est appelée à juger de la valeur de leur conclusion et de s'identifier à cette conclusion, à moins qu'il y ait une réserve qui doive s'exprimer. Et ainsi, l'Assemblée est entièrement responsable de la conclusion qui est donnée. On ne pourra pas dire si la chose a été décidée ainsi, c'est la faute de Jacques, par exemple. Non, l'Assemblée s'identifie avec la conclusion. Et une fois que l'Assemblée s'est identifiée avec cette conclusion, eh bien, la communication qui est faite en Antioche est faite de la part de l'Assemblée. Nous notons qu'il y avait quatre ou trois choses, suivant comment on les considère. Il fallait s'abstenir de ce qui est sacrifié aux idoles. Pourquoi? Parce que se tourner vers les idoles, c'était un outrage fait à Dieu. C'était honorer la créature plutôt que celui qui l'a créée. Et cela, ça faisait partie des commandements de la loi, mais cette ordonnance précédait le don de la loi. Il fallait s'abstenir du sang et de ce qui est étouffé. On comprend que les deux choses vont ensemble parce que ce qui est étouffé, eh bien, le sang est encore dans la chair de la bête. Et ça, c'est une ordonnance qui avait été donnée à Noé après qu'il soit sorti de l'arche après le déluge. Donc, une ordonnance qui est donnée par Dieu, valable pour tous les hommes. Et puis, de la fornication, parce que la fornication va à l'encontre de l'ordre que Dieu a établi pour ce qui est des relations entre l'homme et la femme. Dieu a donné à l'homme une aide. On pourrait s'arrêter sur ces deux côtés. Chapitre 2 de la Genèse, c'est l'aide qui lui correspond, celle qui est tirée de lui, Isha, qui vient de Ish, parce qu'elle vient de l'homme. Et puis, il y a l'autre côté, chapitre 1 de la Genèse, il les créa mâle et femelle. Et Dieu a établi un ordre concernant la relation entre l'homme et la femme que nous sommes tenus de respecter. c'est en dehors des ordonnances de la loi, même si elles sont liées, elles sont reprises par les ordonnances de la loi. On voit que ce qui a été fait a été que l'Assemblée à Antioche se réjouir de la consolation, verset 31. Combien c'est beau de voir que après ces exercices, il y a eu de la consolation et de la joie. Et cela nous encourage. Il peut y avoir des exercices dans les assemblées, et Dieu le permet. Et il s'agit de savoir comment nous les abordons. Et prenons garde à les aborder soigneusement pour que, sans précipitation, sans légèreté, sans négligence, il puisse y avoir, à la fin, une consolation. Nous pouvons remarquer aussi que ce qui avait été décidé à l'égard à Jérusalem et porté à Antioche ne se limitait pas aux assemblées d'Antioche et aux quelques assemblées qui étaient de la Syrie, hein, comme il est dit. Oui, au verset 23, l'assemblée à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Quand l'apôtre Paul est repassé dans les assemblées où il avait annoncé l'Évangile dans les chapitres précédents, il nous est dit, au début du chapitre 16, comme il passait par les villes, ils leur remirent pour les garder les ordonnances établies par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Quand les apôtres sont montés à Jérusalem, ils n'ont pas troublé les assemblées où ils sont passés par ces questions qui étaient devant eux, mais lorsque les conclusions sont tirées, ils en remettent ces conclusions, ce qu'ils appellent les ordonnances établies par les anciens qui étaient à Jérusalem, les apôtres et les anciens. Et les assemblées sont alors affermies dans la foi. Et c'est beau de voir que l'ordre avec lequel les choses ont été faites et cet affermissement dans la foi qui en est résulté. Ainsi, nous aimons terminer ainsi en voyant deux points. N'ajoutons rien à la pure grâce de Dieu envers nous. Et ne nous mettons pas sous un joug que nous ne pouvons pas porter. Il y a un joug que nous sommes appelés à porter, c'est celui que le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Ce joug, oui, nous pouvons le porter, mais aucun autre joug. Premier point. Quand une question délicate se pose comme ça dans les assemblées, qu'il y ait cet exercice profond dans chacun de nos cœurs pour que la conclusion soit toujours pour la gloire de Dieu, bien sûr, mais aussi l'édification et la consolation des assemblées. Et c'est encourageant de lire de tels chapitres, parce que ça nous ouvre un horizon pour, avec prière et avec supplication, nous arrêter sur les questions qui peuvent se poser, afin que les âmes ne soient pas troublées par des enseignements, on a peut-être pas soulevé, mais il est bien dit que ceux qui avaient porté ces enseignements n'avaient reçu aucun ordre de Jérusalem. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'accord de leurs frères à Jérusalem. Eh bien, on est encouragé de voir que il y a des réponses que Dieu veut nous donner si nous appliquons à agir soigneusement selon sa pensée, en nous recherchant dans les Écritures, dans la parole de Dieu, comment il veut nous conduire. On a souligné cette expression dans la prière qu'il est le berger. Le berger prend soin de son troupeau. Il nous appelle aussi à être des bergers. L'apôtre Pierre écrivait aux anciens qui sont anciens avec lui, à paître le troupeau de Dieu, au milieu duquel vous êtes. Et paître le troupeau de Dieu, c'est apporter des soins, apporter la nourriture, donner montrer le chemin, être ses conducteurs pour montrer le chemin. Et cela ne peut se faire que si nous réalisons que nous ne sommes qu'au milieu du troupeau, sans nous élever au-dessus de nos frères, et puis si nous restons bien attachés au Seigneur et pour le suivre.
Le 142. 142.
Hurtons-nous.